Chapitre 7 Georges Lamarche. Charlotte resta longtemps à Vouvray, le désespoir dans le cœur. Et tous les gens du pays, qui avaient fini par la connaître et qui oubliaient la réprobation d'autrefois, la plaignaient sincèrement et compatissaient à sa peine. Lorsque toute espérance fut évanouie, lorsqu'elle fut bien certaine que Claire et Louise, perdues dans la vie, erraient dans le monde, offerte comme une proie facile, hélas, à toutes les aventures, elle quitta le pays. Elle avait un autre devoir à remplir. Elle savait que son mari avait été frappé d'aliénation mentale après sa condamnation. Il avait été interné à Clermont. Charlotte s'y rendit, demanda à parler au directeur et fut introduite. « Je suis Charlotte Lamarche, dit-elle. Je viens voir mon mari. J'ai appris votre libération et j'attendais votre visite. » Puis, avec un peu d'hésitation, « Vous arrivez encore à temps. »« Mon Dieu, est-ce que mon mari... »« Il est à l'hôpital, oui, très malade. » »« A-t-il recouvré sa raison ?»« Non, non, cependant ses yeux sont devenus plus intelligents. Il semble faire des efforts pour se souvenir. » Peut-être que votre présence aura sur lui une influence salutaire et décidera d'une crise heureuse. Voilà pour sa raison. Quant à sa santé, je vous l'ai dit. » Et le directeur hocha la tête. Il signa une autorisation qu'il remit à Charlotte, et celle-ci se rendit à l'hôpital sans perdre une minute. Il fallut qu'on lui désignât le lit de Georges Lamarche. Elle n'eût jamais reconnu celui-ci tant il était changé. Elle se pencha douloureusement sur cette figure amaigrie, ravagée. Il avait les yeux ouverts. De loin, de la porte, il l'avait vu venir, et il avait manifesté une attention singulière au fur et à mesure qu'elle s'était rapprochée du lit. Là, tout près, il la regardait encore, les yeux tout grands ouverts, un peu hagards, avec cette fixité des fous, si facile, si difficile à supporter. « Georges, » murmura-t-elle en pleurant, « Georges, mon pauvre Georges !» Les souffrances de l'homme lui avaient fait depuis longtemps pardonner la faute du mari, qui jadis n'avait pas voulu croire à son innocence. Il payait chèrement son incrédulité, de sa raison et de sa vie. Il redit vaguement, cherchant à comprendre, « Georges ?» Il y avait longtemps qu'il n'avait entendu prononcer son prénom, et cela venait de le frapper comme un souvenir très lointain. « Mais tu ne me reconnais pas ? Regarde-moi. Je suis Charlotte. Charlotte Lamarche, ta femme. » « Charlotte ? Charlotte Lamarche ?» Ce nom de Charlotte aussi venait de lui causer une surprise. Il se releva un peu, s'assit dans son lit, mais garda le silence. Son visage, sous les efforts qu'il faisait pour se rappeler, exprimait une souffrance visible. Il appuya à plusieurs reprises très fort les mains sur son front. Le directeur avait dit vrai. Sous l'action de la maladie, peut-être, il se faisait tout un travail suprême en ce cerveau. Dans le corps miné par la faiblesse, la mort approchait. Mais la nature toute-puissante ne voulait pas en reprendre possession pour jamais sans lui laisser comme un dernier regret, comme une dernière joie aussi. « Ta femme, que tu as tant aimée, que tu crois coupable, ta femme qui t'aime, qui est innocente et qui te pardonne. » Il prit lentement les mains de Charlotte, attira celle-ci plus près de lui, puis du bout des doigts, caressa avec une sorte de cruauté ce visage où se lisait tant de tristesse et tant de compassion. Les pleurs de Charlotte redoublèrent et tombèrent sur les doigts de son mari. Il resta immobile, les yeux baissés, rêvant, souffrant de plus en plus. Alors elle voulut aider ce prodigieux travail qui se faisait en lui. Un nom, un seul nom, pouvait résonner sinistrement aux oreilles de Georges et d'un coup lui rappeler le passé funèbre. Et Charlotte le lui murmura, ce nom, distinctement à l'oreille. Elle le lui dit deux fois pour qu'il comprît bien. La pocharde! Tu ne te souviens donc pas? La pocharde! Soudain, les yeux du pauvre homme brillèrent. Ce mot était venu jusqu'à son cerveau. Il répéta, regardant Charlotte, ah, la pocharde! Oh, la pocharde! Oui, oui! Ses yeux changèrent d'expression. Il eut de l'épouvante comme à la vue de quelque spectacle horrible. Oui, oui, je me souviens, la pocharde, une femme, elle avait empoisonné son enfant, un enfant qui était, mais qu'était-ce donc que cet enfant? Oui, la preuve de sa honte est qu'elle voulait cacher à son mari. Ah, oh, cette femme, cet enfant. Je me rappelle, je les ai vus. Puis, il y a longtemps, je les ai vus. Mais comment, pourquoi? Qui vient de prononcer ce nom de pocharde? Il regarda encore cette femme, vêtue de noir, qui pleurait auprès de lui. Ses yeux s'agrandirent, démesurés. Et il eut un cri, le cri de la raison revenue et du souvenir, hélas. Charlotte, la pocharde, la pocharde. Il retomba sur son lit. Ses yeux se fermèrent, une pâleur mortelle se répandit sur son visage. Il était dans une immobilité absolue, et Charlotte crut qu'il venait de rendre le dernier soupir. Elle s'agenouilla, la tête cachée dans les mains, appuyée sur le bord du lit. Des infirmiers étaient accourus, ils examinèrent le malade. Charlotte murmurait, « Mais il est mort et c'est moi qui l'ai tué. »« Non, madame, il vit, » dit un infirmier. « Dans quel état se réveillera-t-il? J'en sais rien. Il est bien faible. Ménagez-le si vous ne voulez pas qu'il passe entre vos bras. » Et il s'éloigna, haussant les épaules et grommelant. « Du reste, pouf, un peu plus tôt, un peu plus tard, Georges rouvrit les yeux. » Elle vit à ce premier regard que la raison lui était revenue. Et en effet, il dit, « Charlotte, est-ce bien toi? Mais que s'est-il passé? Comment ai-je vécu? Il y a des nuages sur mes yeux et un grand trouble dans mon cerveau. Beaucoup de choses m'échappent, mais je me souviens de quelques autres auxquelles je ne puis pas penser sans horreur. Tout cela, c'est... passé ainsi. Alors toi, Charlotte, toi !» En quelques mots, elle le mit au courant de ses 12 années écoulées. « 12 ans, murmura-t-il, 12 ans qui se sont évanouis comme un jour dans les rêves de cette démence. » Elle lui rappela également comment Matisse avait fait l'aveu de son crime, comment l'accusation d'avoir assassiné le docteur Renville avait été écartée, comment elle avait obtenu sa grâce d'abord, sa liberté ensuite. « Tu vois, » dit-elle, « peu à peu, la vérité se découvre. Un jour, bientôt, j'en suis sûr, on apprendra aussi que je n'ai point empoisonné mon enfant. » Ce mot d'enfant le fit tressaillir tout à coup. C'était une nouvelle porte de sa mémoire qui s'ouvrait. Il regarda Charlotte, se souleva de rechef et jeta un coup d'œil dans la salle. Mais des enfants, mais moi aussi j'avais des enfants. Claire et Louise, dit-elle à voix basse. Oui, c'est cela. Deux jolis anges aux yeux bruns, aux yeux bleus. Pourquoi ne sont-elles pas là? Pourquoi ne les as-tu pas amenées? Elle n'osait répondre. Elle gardait les yeux baissés, son cœur était étreint. Il est une exclamation étouffée. Oh mon Dieu, est-ce qu'elles sont mortes? Non, non, grâce à Dieu. Vivantes, Georges, elles sont vivantes. Il était haletant, sans force, sa voix s'était affaiblie. Un infirmier s'approcha. Madame, il se fatigue. Vous reviendrez un autre jour. La marche étendit les mains vers Charlotte pour l'empêcher de s'éloigner. Encore un mot, dit-il, râlant. Mes enfants, qu'as-tu fait de mes enfants? Elle mentit. Mais je le savais, si je pourrais te revoir, alors je ne les ai pas amenés. Tu les verras bientôt, dès que tu seras remis. Mais où sont-elles? Il me semble que tes yeux se détournent de moi et que tu ne me dis pas la vérité. Elles ont été élevées par de bonnes sœurs dans un orphelinat. Il joignit les mains. Les pauvres petites. Puis il se tut. Madame, insista l'infirmier, je vous assure que ce serait dangereux pour lui si vous restiez ici plus longtemps. Je reviendrai demain. Oui, demain. Elle embrassa la marche sur le front d'un baiser léger. Il n'ouvrit pas les yeux et seulement murmura Charlotte. Elle s'éloigna sur la pointe des pieds. Le lendemain, quand il la vit, il la reconnut, bien qu'il entrât en agonie. Charlotte, nous avons trop souffert, tous les deux. Je ne veux pas mourir sans t'avoir dit que je ne te crois innocente. Tu m'entends, innocente? De tout, je te demande pardon de n'avoir pas cru cela autrefois. Oui, je te pardonne. Si j'avais cru, peut-être que cela eût évité de grands malheurs. Au lieu de t'abandonner à ton sort et de t'outrager comme tout le monde, j'aurais dû te défendre. Mais dans les râles de l'agonisant, elle distingua encore « Pardon, Charlotte, pardon. » Puis il se tut. Son visage prit une sérénité auguste, un calme étrange. Elle l'entoura de ses bras en sanglotant. Il était mort. On l'enterra le lendemain. Il y eut peu de monde. Les fous n'ont point d'amis. Leur mort est une délivrance. On ne les plaint pas. Charlotte suivit l'humble cortège avec des employés de la maison et le directeur. Pourtant, un étranger s'était mêlé à ce cortège. Il se mit à l'écart, à l'église et au cimetière. Charlotte, tout à sa douleur, ne le remarqua pas. Elle le retrouva dans le cabinet du directeur lorsqu'elle alla prendre congé de celui-ci, et cette fois, leurs regards se rencontrèrent. Jean, dit-elle, c'est vous? C'était Jean Berthelin, en effet. Et avec élan, Oh, je reconnais votre cœur, dit-elle. Je le retrouverai toujours lorsque j'aurai besoin des consolations d'un ami. Ils s'étreignirent les mains. Pendant votre détention, dit le directeur, Monsieur Berthelin s'est informé régulièrement de la santé de votre mari, et tous les mois il est venu lui rendre visite. Merci, Jean, dit-elle simplement. Ils prirent congé du directeur, et quand ils se trouvèrent seuls, côte à côte, dans la campagne, qu'assombrissait le crépuscule. Ma maison vous est ouverte, Charlotte, dit Jean. Pour que vous y soyez à votre aise, je partirai. Je resterai 1 an, 2 ans absent s'il le faut. De cette façon, les mauvaises langues ne pourront trouver étrange que vous demeuriez chez moi. Je vous ai aimé avec trop de franchise, de probité, pour que vous vous fâchiez de ma proposition. Non, certes, je ne m'en fâche pas, mon bon Jean. Et la preuve? La preuve? C'est que je l'accepte. Je l'accepte Non pas pour maintenant, mais pour plus tard peut-être. Pour le moment, j'ai deux missions à accomplir. Il faut que je retrouve mes filles. Et lorsque je les aurai retrouvées, il faut que je prouve mon innocence. Mais comment? Bon, je ne sais pas encore. Dieu m'inspirera, me viendra en aide. Et après, Charlotte? Après, ouf. Peut-être sera-ce la vie plus calme après tant de tempêtes. Et alors, j'irai vous demander asile, mon cher Jean, comme un frère. Et vous n'aurez pas besoin de vous expatrier pour cela. Comme j'aurai prouvé mon innocence, la calomnie n'osera plus m'atteindre. Ah, jadis, vous me témoigniez plus d'intimité, vous me tutoyiez. Oh, mon cœur n'a pas changé pour toi, Jean. Et elle lui tendit les mains.